D'abord, M. Tin a parlé du dragon. Moi, je vais parler de l'éléphant. L'éléphant dans la pièce, que vous avez mentionné tantôt. L'Inde, qui, selon toutes les données quantitatives disponibles, est appelée à devenir une puissance. On verra ce qui arrivera. Implosera-t-elle? Et si on parle de données quantitatives, quand on sait que 50 000 personnes qui se rajoutent par jour dans ce pays, c'est clair que nous allons avoir une puissance en devenir. La population indienne va surpasser la population chinoise vers 2040, pour probablement la surpasser davantage de peut-être 200 millions, pour peut-être atteindre 1,6 milliard d'habitants. En 2027-2028, la population active de l'Inde va surpasser la population active de la Chine. Moi, je considère 2027-2028 l'année de tous les dangers, parce que vous allez avoir 1,6 milliard de population active seulement entre avec l'Inde et la Chine. Et heureusement, cet apogée ne sera pas simultané, parce que la population active chinoise va commencer à régresser à partir justement de ces années. Donc, c'est tant mieux que l'Inde et la Chine n'ont pas une population active similaire et de la même âge. D'ailleurs, si on prend la thématique d'aujourd'hui, qui est sur le Canada multipolaire, stratégiquement parlant, le Canada, selon moi, mais probablement d'autres personnes, je ne suis pas le seul à penser ça, que le Canada doit se rapprocher et réactiver, relancer notre relation avec l'Inde. Je vous rappelle que de 1947 à 1974, on a eu des relations très cordiales avec l'Inde, la période glorieuse, qui a eu un setback important lorsque l'Inde a fait un essai nucléaire avec un canadou canadien. De 1974 à 1991, il y a eu pratiquement pas de relations entre le Canada et l'Inde. C'était vraiment à couteau tiré. Pas simplement suite à l'explosion nucléaire, mais aussi suite à l'incapacité du Canada de satisfaire les exigences indiennes sur le traitement réservé aux accusés de Air India, qui d'ailleurs, celui qui a posé la bombe a été relâché avant hier. Et c'est une épine, justement, dans les relations indo-canadiennes. Il y a eu des tentatives de relancer cette relation à partir de 91, qui a reculé encore en 98 parce que l'Inde a fait d'autres essais nucléaires. On a retenté de relancer cette relation qui est pas mal stagnante, je vous dirais, depuis 2003 à 2013. Et là, on voit, dans le fond, une naissance, dans le fond, d'un retour à une relation plus cordiale. Je présume que vous connaissez M. Modi. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous isoler les qui contribuent au rapprochement indo-canadien, les obstacles de ce rapprochement, bien sûr. Et dans le fond, ça, on parle plus de relations bilatérales avec l'Inde, tandis que je vais finir avec un peu les relations multilatérales qu'on pourrait avoir aussi avec l'Inde, comme outil de rapprochement. Tout d'abord, il y a plusieurs facteurs. Bon, j'aurais pu en mettre plus, mais ce qui affecte directement notre relation avec l'Inde, il y a bien sûr la question de la diaspora qu'il faut prendre en considération. Il y a la complémentarité, bien sûr, de ce qu'on peut vendre et ce qu'on peut acheter. Il y a bien sûr aussi des politiques économiques qu'on met en place. On tente depuis très longtemps d'avoir un entente de libre-échange avec l'Inde. Ce n'est toujours pas fait. Et il y a aussi l'importance qu'on lui attribue par l'activisme diplomatique que nos politiciens doivent, je crois, de façon très sérieuse, s'engager avec l'Inde. Et jusqu'à maintenant, on a été relativement timide dans nos relations avec l'Inde. Je vous rappelle que le Canada est le pays développé le plus indianisé de la Terre. Il y a plus d'Indiens ici en pourcentage de personnes qu'en Angleterre et qu'aux États-Unis. Il y a une différence entre un PIO et un NRI. Un PIO, c'est le People of Indian Origin. C'est quelqu'un qu'on lui donne la nationalité, il a été naturalisé. Tandis que les NRI, c'est des Non-Resident Indian. C'est ceux qu'on retrouve à Dubaï, au Koweït, en Oman, etc., qui, eux, souvent, c'est des travailleurs moins bien qualifiés, qui ont moins d'influence dans la politique dans les politiques bilatérales, compte tenu que c'est des travailleurs temporaires qu'on renvoie en Inde quand on n'a plus besoin d'eux. Bon, peut-être après le mondial au Qatar, on va renvoyer beaucoup de travailleurs indiens en Inde. Nous sous-exploitons notre diaspora indienne au Canada. Ça commence à se faire. Il y a des institutions maintenant indiennes qui, au sein du Parlement, mais on est en retard d'environ une vingtaine d'années avec les États-Unis sur la capacité d'utiliser cette diaspora à des fins de rapprochement avec l'Inde. Il y a des raisons qui s'expliquent. On a une diaspora très différente du reste du monde en termes de notre diaspora indienne. Je vais vous donner des chiffres tantôt. Je vais vous expliquer que la nôtre, dans le fond, elle est régionalisée, notre diaspora indienne, puisqu'elle provient beaucoup du Punjab. C'est-à-dire les Sikhs. C'est notre vieille diaspora historique. Et elle est relativement assez bien... plus on va vers l'Est, moins il y en a. Mais il y a quand même un bloc important en Ontario et aussi un bloc important, bien sûr, en Colombie-Britannique. Autre phénomène nouveau, surtout depuis les années 90, les transferts de fonds, qui aujourd'hui... qui valent environ 500 milliards de dollars, de personne à personne, si vous préférez. Le pays qui transfère le plus de fonds sur la planète, c'est l'Inde. 72 milliards en 2014, suivi de la Chine à 60 milliards. Bon, après ça, vous avez le Mexique et les Philippines, là, qui se battent pour la troisième ou quatrième position, environ avec 22 milliards de dollars, de transfert de personne à personne, qui a une incidence importante à moyen terme, parce que la majorité de cet argent sert surtout à faire de l'éducation postsecondaire aux personnes qui reçoivent cet argent-là. Donc, c'est un empowerment du Sud par des transferts de fonds de personne à personne. Ce qui veut dire que ça a beaucoup plus de résultats concrets dans l'empowerment et l'enrichissement des pays du Sud que l'aide publique au développement, qui perd son influence politique si on la compare numériquement parlant avec les transferts de fonds individualisés. Bref, si on regarde la diaspora indienne au Canada et l'Inde, ce n'est pas un brain drain, c'est un brain gain qu'on doit analyser ce transfert d'argent et aussi ce transfert des connaissances et des technologies. Et encore là, une course en ce moment, Mme Nguyen est partie avant hier, avec 19 institutions postsecondaires justement en Inde, pour justement accélérer, dans le fond, ce transfert de bring-in dans lequel autant le Canada et l'Inde peuvent en tirer profit. Il y a un lobby indien au Canada. Et là, comme on peut voir, surtout avec le nouveau gouvernement, maintenant, on peut lui mettre une face. J'étais le dernier surpris de voir notre ministre de la Défense qui serait d'origine Sikh. Je dois vous avouer que c'est une longue tradition dans le Commonwealth britannique de nommer des Sikhs, surtout dans l'aspect militaire de la défense. Alors, ce n'était pas une surprise. On peut se demander pourquoi ça a pris tant de temps. Quand on connaît bien l'histoire militaire qui unit autant les Sikhs avec les Alliés. Pensez à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ou The English Patient, si vous préférez. Ou un Sikh tombe en amour avec Juliette Binoche, qui est une Canadienne française dans le film. Et il y a des grandes divisions aussi au sein du... J'ai pas fait ma traduction, ma dernière ligne, excusez-moi. Des divisions politiques aussi. Les regroupements indiens sont soit proches du Parti conservateur, soit proches du Parti libéral, soit proches du Parti néo-démocrate. Ce qui manque un peu aussi, n'oubliez pas que l'Inde, bon, il y a plusieurs langues, plusieurs régions, ce n'est pas une diaspora très unie. Contrairement à la diaspora chinoise, qui est beaucoup plus homogène, contrairement à la diaspora indienne. Donc, c'est un élément important qu'on doit utiliser davantage. On produit et on achète, dans le fond, on a une balance commerciale avec l'Inde. Je parle du Canada, qui est très saine. Le Canada a un surplus commercial avec l'Inde d'environ 300 millions. On exporte pour 3,9 milliards, on importe pour 3,6 milliards. Donc, on a une relation assez saine. Il n'y a pas d'asymétrie économique. Donc, ce qui favorise, dans le fond, des négociations dans l'espoir d'être gagnant-gagnant. Je parle comme chinois. OK. Autre chose aussi, nous exportons assez des produits assez diversifiés. Là, surtout le Québec, et lui, a des exportations vers l'Inde. Environ un tiers, c'est de la haute technologie, un tiers, c'est de la basse technologie. Mais le Canada, c'est surtout de la basse technologie, de ce qui est low and medium tech. Mais le Québec, c'est plus de high tech, surtout quand on pense à tout ce qui est transport ou tout ce qui est l'aéronautique. Et c'est pour ça que nous avons une relation relativement saine dans nos exportations vers l'Inde. Je vous ai mis les composantes. Si vous regardez aussi l'évolution de nos exportations vers l'Inde, bon, cette année, ça va, surtout avec l'année fiscale qui s'est terminée l'année passée, en 2015, il y a eu une embellie substantielle. Est-ce que c'est l'arrivée du gouvernement Modi qui a permis cela? C'est un peu tôt pour dire que l'arrivée de Modi nous a permis d'augmenter nos exportations. Mais c'est clair qu'il y a des barrières importantes qui empêchent justement d'avoir un commerce beaucoup plus riche. Entre autres, M. Arens a souligné qu'il n'y a pas justement de pipeline qui s'en va vers l'Asie. Je vous invite à regarder les chiffres d'exportation de l'Alberta vers l'Inde. On les voit un peu mal à cause d'un peu noir, là, mais c'est en déclin. Seulement 94 millions d'exportations vers l'Inde, ça fait un pipeline. Et les Indiens, les Chinois vont dire oui au pétrole sale de l'Alberta, contrairement aux Européens qui peuvent toujours dire non, comme ils ont dit non aux OGM. Autre chose, si vous regardez toutes les autres provinces, et les cinq provinces dominantes ici, vous avez des augmentations substantielles des exportations depuis l'année passée. Plus de 20 % parfois d'augmentation en une seule année. C'est quand même relativement bon. Et sur le long terme, on voit que ça stagne environ de 2008 à 2013, et là, ça a recommencé depuis un an ou deux, nos exportations vers l'Inde. Même chose aussi pour le Canada. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, c'est environ 7 milliards de dollars de commerce bilatéral, mais pendant longtemps, on nous a promis qu'on allait atteindre 15 milliards en 2015. Bref, on est à la moitié de l'objectif qui a été émis il y a 10 ans. Qu'est-ce qui explique cette lenteur? En partie, la politique économique. Le traité de libre-échange, c'est depuis 2009 qu'on nous le promet. Il aurait dû être signé en novembre 2013. L'Australie et la Nouvelle-Zélande expérimentent les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui explique? Est-ce que c'est les Indiens qui sont trop exigeants dans les rondes de négociation? Je vais revenir avec un problème qui achoppe, qui rend difficile la signature de traité de libre-échange avec l'Inde. Autre élément. L'Inde est une grande exportatrice de services. Et c'est peut-être ça le plus difficile à signer l'entente de libre-échange concernant les services. Et ça qui limite, dans le fond, la capacité de signer un traité de libre-échange avec l'Inde. Je vais donner l'exemple tantôt. Autre élément. L'Inde, c'est un peu le parent pauvre de notre politique extérieure. Pourtant, on a tout ce qu'il faut. On a une diaspora, ils ont besoin de nos produits, ils ont produit même besoin de nos services. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y a certaines erreurs qui ont été faites dans le passé. On n'a pas une relation si cordiale en passant avec l'Inde. Nos fonctionnaires à Ottawa sont très douteux, dans le fond, de l'attitude indienne. Disons que l'explosion nucléaire de 1974 et de 1998 a amené beaucoup de scepticisme sur l'honnêteté des Indiens dans leur relation avec le Canada. Mais on commence à vouloir mettre un terme à ça. Tout d'abord, on a réglé notre problème du nucléaire. Maudit est venu l'année passée, fait son shopping d'uranium. Alors, c'est bien, et on va pouvoir, l'Alberta va, la Saskatchewan va en exporter 3000 tonnes, là, je veux dire, d'uranium. On a réglé notre problème nucléaire. On n'a pas réglé notre problème, par contre, des travailleurs temporaires. Et autre chose, c'est pas une bonne idée d'aller visiter le Pakistan avant d'aller visiter l'Inde. À chaque dollar que vous donnez au Pakistan, les Indiens voient ça comme, dans le fond, une menace. Ce n'est pas on peut comprendre qu'il est allé en Afghanistan, nos boys sont là, là. On peut comprendre qu'il y a une relation publique à faire aussi avec l'électorat au Canada. Mais ce n'est pas une bonne idée de constamment aller au Pakistan avant l'Inde. Autre chose aussi, célébrer le particularisme sikh en Inde n'est pas une très bonne idée également. Et autre élément aussi, éviter honnêtement, éviter toute connotation, dans le fond, post-coloniale avec les Indiens. Faites-leur confiance. Ils ont des limousines bien isolées, eux autres aussi, puis bien armurées. Alors, je vais seulement vous dire qu'il faut prendre les Indiens, je crois, autant dans les négociations que dans les relations interpersonnelles, dans une attitude vraiment post-coloniale et non pas néo-coloniale. En passant, il y a plusieurs visites des premiers ministres canadiens en Inde, mais ça date d'il y a un certain temps. Harper est allé en 2010, en 2012, et là, j'aimerais seulement vous souligner que le lendemain de l'élection de M. Trudeau, non, le deux jours après, il y a eu une invitation officielle du gouvernement indien au gouvernement canadien de se rendre en Inde. Le gouvernement Modi a invité Trudeau, qui lui aussi a dit « je vais y aller ». Alors peut-être on va laisser tomber le Pakistan en premier cette fois-ci, et peut-être l'Inde va conseiller à nos autres pays de voter pour le Canada pour un conseil de sécurité élargie la prochaine fois. Parce que la dernière fois, il n'a pas dit de faire cela. Et je vous rappelle que c'est une locomotive quand même qui mobilise les pays du Sud, l'Inde. Si vous voulez faire des gains géopolitiques, c'est pas mauvais de l'avoir de son côté. Il y a des obstacles. Premièrement, le TPP est un obstacle. Les Indiens ont été un peu ahuris de... Ils n'étaient pas contents le lendemain matin de cette adoption-là. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas signé. Bon, c'est clair que les États-Unis et l'Inde ne pouvaient pas se parler. Les conditions de production sont tellement loin les uns des autres que les Américains n'ont pas daigné vraiment de discuter de TPP avec les Indiens. On peut le comprendre pourquoi. Autre chose aussi, il y a beaucoup de barrières indiennes. Je vais vous montrer tantôt exactement graphiquement ce que ça veut dire, mais c'est clair que ce n'est pas une économie libéralisée. Quoi qu'on en dise, comme en 1991, il y a eu une libéralisation économique en Inde, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'obstacles et de barrières tarifaires. Et finalement, il y a les nationalismes canadiens et indiens qui empêchent une signature d'un traité de libre-échange. Tout d'abord, j'aimerais quand même vous rappeler l'Inde n'est pas capable d'atteindre des capacités de production, des conditions de production comparables avec les pays qui vont signer le PTT, le TPP. Les gens qui se souviennent, lorsque M. Jean Chrétien est allé en Inde en 1996, on lui a demandé s'il allait empêcher les produits indiens faits par le travail des enfants qui allaient pénétrer le marché canadien. Puis il a dit « pas de problème, on va vérifier ça ». Je crois que c'est beaucoup plus difficile que ça, parce que même le gouvernement indien a les difficultés à voir si ses propres biens ont été faits par justement du travail d'enfants. Si vous regardez dans le fond les mesures de liberté de commerce, l'Inde et le Canada dans le G20, c'est aux antipodes qu'ils se situent. On a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Si vous regardez les barrières tarifaires que l'Inde impose toujours, sud, l'autre, lutte chaude avec le Brésil, et le Canada est encore là, complètement l'un des derniers, donc encore des antipodes. Les nationalismes. Pour les gens qui s'en souviennent exactement, la problématique de la Banque royale du Canada à l'été 2013, lorsque des travailleurs en technologie de l'information sont venus former des travailleurs du Canada pour ensuite délocaliser le secteur des technologie de l'information en Inde. Bref, le Canada a importé des travailleurs indiens pour se faire former par des Canadiens pour ensuite délocaliser ses services en Inde. Ça n'a pas très bien passé dans l'opinion publique canadienne. Je vous rappelle, là, je parle seulement de l'Inde. Je pourrais parler des Filipinos et des McDonald's en Alberta. Là. Ça, c'était l'autre année subséquente. Puis je pourrais toujours vous parler aussi des Chinois dans les mines de charbon en Colombie-Britannique. Ça ne passe pas très bien dans l'opinion politique canadienne de permettre surtout des travailleurs temporaires étrangers de venir travailler au Canada et ensuite on délocaliserait les services dans lesquels ils sont venus travailler ici. Le nationalisme canadien, d'une certaine mesure, autant d'un point de vue électoraliste, il ne faut pas se le cacher, le traité de libre-échange avec l'Inde n'aurait pas pu arriver une année d'élection. Là, c'est le temps. OK. C'est bon. Et Autre élément aussi, il y a une crainte indienne aussi. Je vous rappelle que lorsque un bateau de Tamoul, en 2009, est arrivé sur les côtes de la Colombie-Britannique, les Indiens craignaient de voir reconstituer les Tigres Tamoul, mouvement séparatiste du Sri Lanka, à Toronto. Je vous rappelle, c'est la plus grande diaspora tamoul à l'extérieur de l'Asie, qui est à Toronto. Avant-hier, justement, on a laissé... on a libéré, dans le fond, le prisonnier qui avait posé la bombe dans Air India. Et les Indiens craignent de voir, dans le fond, les mouvements séparatistes indiens trouver refuge au Canada, qui, lui, ne fait pas suffisamment de répression envers ces mouvements, qui posent problème en Inde. Je vous rappelle que la police secrète du Canada a été fondée en 1907 pour transformer, justement, pour obtenir des renseignements des mouvements séparatistes sikhs et les envoyer à l'armée britannique. C'est comme ça qu'une police secrète est née au Canada. Manque de volonté politique. Il faut conclure un traité de libre-échange. C'est un marché prometteur. Nos économies sont relativement complémentaires. Alors, il faut peut-être passer par-dessus, justement, cette crainte d'avoir des travailleurs temporaires, bien isolés de la façon que ça pourrait se faire. Mais c'est clair que c'est un élément qui doit se faire. Il y a 2 ans et demi d'attente pour obtenir un visa de résident permanent au Canada au consulat de Chandigarh, qui est justement au Punjab, et parce que 35% de notre diaspora est d'origine sikh au Canada. Et c'est seulement 2% en Inde. Donc, si on ne met pas de staff, c'est clair que ça ralentit, dans le fond, la fluidité de personne à personne entre le Canada et l'Inde. Autre problématique... Les visas, c'est très problématique d'obtenir des visas d'entrée multiple en Inde, surtout si votre père est pakistanais. Mais ici, au consulat chinois, ça me prend 5 minutes d'avoir un visa entrée multiple sur 10 ans. En Inde, prenez un visa touriste, s'il vous plaît. Ça va être j'ai été refoulé à quelques reprises, justement, je n'ai pas le visa touriste. C'est très compliqué, demander un visa d'investisseur, de chercheur ou de conférencier. Et finalement, j'aimerais aussi quand même souligner que il y a une capacité d'augmenter notre relation avec l'Inde. Pas simplement aussi par augmenter les gens, mais aussi, et là je m'adresse à M. Roussel, où est-il? Oui, qui a fait 50 Celsius cet été en Inde, il y a eu 3000 morts, mais l'Inde s'est joint au Conseil de l'Arctique. Alors, normalement, les pays observateurs doivent demander un pays membre pour justement avoir un effet sur l'agenda. Voici une occasion merveilleuse pour le multilatéralisme canadien d'utiliser, dans le fond, sa puissance pour d'ailleurs se rapprocher de l'Inde et d'utiliser, dans le fond, des conseils multilatéraux dans lesquels le Canada fait partie. Parce qu'au-delà du Commonwealth, il n'y a pas grande association, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui unissent le Canada et l'Inde. Autant on peut utiliser le multilatéral, le Asian Summit, le Conseil de l'Arctique et aussi, bien sûr, les relations bilatérales pour réactiver et relancer notre rapprochement avec l'Inde. Merci.